Yann Esler.
Bonjour. Le canton de Neuchâtel manque de familles d'accueil. Environ 80 enfants sont en attente de placement. La moitié sont de jeunes requérants d'asile. Les finances, l'organisation et les oppositions. Trois raisons principales expliquent les retards des travaux routiers. Et avec le printemps, la saison des chantiers s'ouvre à nouveau dans le canton de Neuchâtel. Un départ pleinement réussi en vue de l'Euro 2024 avec 2 matchs, 6 points, 8 buts marqués et 0 encaissé. La Suisse ne pouvait guère espérer mieux entamer sa campagne de qualification. Et cet après-midi, le temps devrait rester sec. Quelques éclaircies sont prévues. Les températures sont en hausse avec des maxima à 17 degrés. C'est une problématique récurrente, celle du manque de familles d'accueil, et le canton de Neuchâtel n'y échappe pas. En réponse à une question de la socialiste Corinne Bollet-Mercier ce matin au Grand Conseil neuchâtelois, le Conseil d'État a confirmé qu'environ 80 enfants sont en attente de placement. La moitié sont des requérants d'asile mineurs non accompagnés qui sont au centre de premier accueil de Couvet. Et pour le reste, ce sont soit des enfants en institution spécialisée, soit des jeunes qui bénéficient de mesures de protection renforcées, mais à domicile. On écoute la conseillère d'État Christelle Graff.
La situation actuelle met le dispositif sous une certaine pression. Hein. On le voit notamment, c'est en général en lien avec des pics liés notamment aux flux migratoires. Alors bien sûr, c'est une situation en tout cas qui nous garde réveillés et qui fait en sorte qu'on doit vraiment rester attentif sur le dispositif pour voir si c'est structurel ou conjoncturel finalement.
Est-ce que le dispositif en place depuis 2018, qui a supprimé des places en institution dans l'idée d'augmenter les familles d'accueil, est un échec ?
Alors le dispositif de diminution des places a été gelé depuis maintenant une année et demie, donc il n'y a plus de diminution de places, puisque effectivement on n'arrive pas à trouver les familles d'accueil nécessaires pour pallier au placement dans des institutions. Mais en l'occurrence, il faut dire que notamment les familles d'accueil ont été passablement appelées en lien avec la crise ukrainienne et la nécessité de pouvoir accueillir ces flux migratoires. Donc on espère pouvoir repartir avec une nouvelle campagne de sensibilisation.
Des propos recueillis par Jean-Paul Pitchy. Pourquoi les chantiers routiers annoncés prennent parfois du retard alors que la saison des travaux sur le réseau routier neuchâtelois est en train de reprendre? C'est l'occasion de répondre à une question qui suscite parfois de la mauvaise, voire de la très mauvaise humeur chez certains automobilistes. Il arrive que des projets annoncés par l'État et les communes en début d'année subissent des délais, voire qu'ils soient repoussés d'une ou de plusieurs années. Plusieurs raisons à cela, comme l'explique Nicolas Merlotti, l'ingénieur cantonal neuchâtelois. Elles ont trait aux finances, à l'organisation et surtout aux oppositions.
Des retards qui peuvent survenir, par exemple, si on n'obtient pas les crédits nécessaires, ce qui est très gênant quand d'autres acteurs sont impliqués dans la planification des travaux qu'on a l'intention de réaliser. Et puis aussi des questions liées aux oppositions qui peuvent intervenir quand on met un projet à l'enquête publique et puis que des opposants se manifestent, soit des privés, riverains concernés, soit alors des associations d'usagers de la route qui peuvent être de mobilité douce ou qui peuvent être de mobilité motorisée, ou alors des associations de protection de l'environnement.
Et sur rtn.ch, vous trouverez en lien une carte des principaux travaux routiers au programme cette année, ainsi que des sujets consacrés aux principaux projets, comme par exemple le chantier Montrue-Saint-Blaise, la route des ponts de Martel à la Sagne ou encore le réaménagement du pont de Saint-Jean à Thiel. Les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Une conférence débat est organisée ce soir à l'Université de Neuchâtel pour explorer l'impact de ces nouveaux médias sur la société. Il s'agira d'analyser en quoi les réseaux sociaux modifient les liens entre liberté d'expression, débat public et démocratie. Une question abordée sous trois angles, la perspective journalistique, les techniques de persuasion et un aspect plus juridique sur la liberté d'expression. Une liberté d'expression qui fait avancer le débat, mais qui peut aussi le rétrécir. Neza Zimmermann, professeure assistante de droit constitutionnel à l'Université de Neuchâtel.
On en a beaucoup parlé en lien avec l'élection de Trump aux États-Unis. C'est cette idée qu'on peut identifier des catégories vulnérables de la population, qu'on appelle des persuadables. C'est des gens, on se rend compte, qui sont plus facilement persuadables, on va dire. Et donc, en fait, on va leur fournir du contenu très, très ciblé, en fait. Les réseaux savent beaucoup plus sur nous que ce qu'on sait, nous, sur nous. Et donc, on commence à regarder des choses un peu critiques sur l'État. On va tomber tout de suite, enfin, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, dans des théories complotistes, dans des choses qui renforcent, en fait, des croyances qu'on aurait peut-être déjà, ou un petit peu des tendances qu'on aurait. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui ensuite peut influencer le débat démocratique parce qu'on a l'impression que c'est vrai aussi. Donc on a de la peine à faire cette distinction entre ce qu'on voit, typiquement les théories complotistes, et puis peut-être le reste du discours, en fait. Donc, on perd un peu cette ouverture, justement. On est un peu cantonné. Et ça pose évidemment plein de questions, notamment comment est-ce qu'on peut faire pour réouvrir le débat démocratique, hein, pour s'assurer qu'il y ait ce vrai échange qui se fait. Est-ce que l'État doit intervenir, peut-être aussi, pour nous assurer qu'on ait une vraie liberté d'expression et aussi liberté d'information, donc d'accès aux informations ?
Nessa Timmerman était l'invitée de la matinale. Un entretien retrouvé en vidéo sur rtn.ch et la conférence débat a lieu ce soir de 18h à 19h30 à l'aula de la faculté de droit de l'université de Neuchâtel. Au terme d'un vote serré, le Parlement jurassien a lui accepté l'introduction du vote électronique dans le canton. Il a validé ce matin une motion du centre contesté par une partie de l'échiquier politique qui craignait pour la sécurité les coûts de la mise en place d'un tel système. Le gouvernement a lui défendu le projet. À l'échelle nationale, les cantons de Belleville, Saint-Gall et Turgovie pourront tester le vote électronique le 18 juin lors des votations fédérales. La coupole devrait rouvrir cet automne. Le conseil municipal de Bienne a libéré le dernier versement partiel destiné à rénover et agrandir la salle de concert incontournable de la culture alternative depuis plus de 50 ans. Concerts et autres événements pourront reprendre, donc comme prévu, dès l'automne. Plus aucun train ne circule entre la Suisse alémanique et le Tessin. Le trafic est interrompu depuis le milieu de la matinée en raison de la panne d'une ligne de contact entre Flüelen et Erstfeld dans le canton d'Uri. Les réparations sur l'axe ferroviaire du Gotthard doivent durer au moins jusqu'à la mi-journée, indiquent les CFF. Sergio Ermotti reviendra lui début avril aux manettes du géant bancaire UBS après l'avoir dirigé de 2011 à 2020. Il avait à l'époque transformé la banque traditionnelle en un géant mondial de la gestion de fortune, tourné surtout vers les ultra-riches, notamment en Asie. Son nouveau défi sera donc de taille, parvenir à intégrer son désormais ex-rival Crédit Suisse. Il succède à Oswald Grubel qui avait démissionné en septembre. Les aînés pour la protection du climat plaident leur cause à Strasbourg. Leur plainte contre le gouvernement suisse est examinée par la Cour européenne des droits de l'homme. Les aînés reprochent au Conseil fédéral de ne pas avoir pris assez de mesures pour limiter le réchauffement climatique. L'audience est en cours. Marie Villumier est sur place.
Les avocats des aînés pour le climat et les avocats de la Confédération ont été entendus par la Grande Chambre. Ils ont donc plaidé devant 17 juges ce matin. L'argumentaire a d'abord porté sur la qualité de victime des plaignantes. Les aînés estiment que le réchauffement climatique les met en danger, car les canicules plus intenses et plus fréquentes provoquent une mortalité élevée chez les femmes âgées. Elles reprochent donc à la Suisse de ne pas suffisamment protéger leur droit à la vie. Ce que contestent les avocats de la Confédération, ils affirment qu'il n'existe aucune preuve que les atteintes à la santé des plaignantes seraient causées par des omissions du gouvernement suisse. Pour eux, appartenir à une population vulnérable ne suffit pas pour être reconnu comme victime. Les plaidoiries se sont ensuite concentrées sur les mesures prises par la Suisse. Les aînés pour le climat considèrent qu'elles sont insuffisantes pour contenir la hausse des températures à 1,5 degré, notamment parce que les objectifs pour limiter les émissions domestiques de CO2 ne sont pas assez ambitieux. Les avocats de la Confédération ont répliqué que les engagements de la Suisse s'alignaient sur les objectifs internationaux de lutte contre le réchauffement climatique.
Et les avocats des deux parties répondent maintenant aux différentes questions des juges. Il faudra probablement attendre plusieurs mois avant que la Cour ne rende son verdict.
RTN, il est midi 24.
Sport. Deux matchs, 6 points empochés, 8 buts marqués, 0 encaissé. Des très beaux chiffres. L'équipe de Suisse de football a signé des débuts parfaits dans les qualifications de l'Euro 2024. Après avoir dominé le Bélarus samedi 5-0, la Nati a remis le couvert face à Israël hier soir. Victoire 3-0 à Genève. De quoi pleinement justifier et assumer le statut de favori du groupe I. Le directeur de l'équipe nationale, Pierluigi Tammy, ne pouvait que tirer un bilan très satisfaisant de ce départ en fanfare.
Je sais qu'on était supérieur, surtout à la Biélorussie. Mais le fait qu'à la fin tu gagnes 5-0 et que tu n'encaisses pas de but, etc., ça veut dire que tu as débuté ces matchs et cette compétition avec la juste mentalité et humilité. Parce que ces matchs-là, ça peut devenir compliqué si tu vas sur le terrain en pensant que du point de vue technique, on est supérieur et le résultat, il va arriver tout seul. Non, c'est pas comme ça. Il faut courir, il faut se battre. Et c'est ce que j'ai vu dans les deux matchs. C'est des matchs que j'ai déjà vu avoir la domination du terrain, mais après, tu payes cash parce que tu ne marques pas de but.
S'il y a une chose à améliorer pour les deux matchs de mi-juin, malgré ces excellentes performances, ça serait laquelle ?
Non, moi je serais content qu'on puisse confirmer ce qu'on a montré dans les deux matchs. Avec cette mentalité, comment on va affronter les matchs, ça me suffit. J'étais positif, je reste encore plus positif avec ce que j'ai vu ces deux matchs-là.
Pierre-Luigi Tammy au micro de notre confrère de OneFM Blaise Bugil, et au mois de juin la Suisse se rendra en Andorre avant d'accueillir la Roumanie. Toujours en football, le FC La Chaux-de-Fonds joue ce soir en Première Ligue. Le FCC qui s'est qualifié pour la Coupe de Suisse de la saison prochaine affronte le CS Chénois à 20h15 sur sol genevois. Enfin, en ski alpin au championnat de Suisse, Delia Dourer a conquis ce matin à Verbier son troisième titre de rang en descente. La Nidvalienne a devancé la Grisonne Stéphanie Yennal et la Schwitzoise Juliana Souter. Il faut savoir que les meilleures descendeuses n'étaient pas présentes. Corinne Souter, Lara Gout-Berami ou encore Jasmine Fleury.